Chapitre 2. Bertrand. D'avril à septembre, il n'a plus une minute de répit. En plus du service ordinaire des trois paroisses dont il a la charge, il assure la préparation et la célébration des mariages. Trois par week-end, parfois quatre. Avec sa magnifique architecture romane, l'église est un des joyaux de la région. Elle figure en bonne place dans tous les guides touristiques. C'est le genre de publicité qui attire les couples désireux de se marier dans un cadre exceptionnel. L'église possède une très ancienne statue de Sainte Agathe en bois polychrome. Sainte Agathe, qui mourut martyrisée pour avoir obstinément refusé le mariage afin de se consacrer au Christ. C'est cocasse, en un sens, que cette statue voit défiler tant de gens à marier. Souriante et hiératique, la sainte porte sur un plateau ses deux seins arrachés, deux petits dômes clairs dans une mare de sang. Il ne se fait aucune illusion. La plupart des couples viennent ici pour avoir un joli décor pour leurs photos de mariage. En général, il ne s'agit pas de paroissiens. Ce sont des gens de la région attirés par la beauté de l'église. Ça ne veut pas dire qu'ils se marient uniquement pour les photos, loin de là. Beaucoup considèrent leur mariage comme la plus importante décision de leur vie. Beaucoup ont l'impression que seul un passage par l'église peut apporter à leur engagement la solennité convenable. Il aime assurer la préparation au mariage. Il organise toujours au moins quatre rencontres avec les fiancés dans les mois qui précèdent. Il souhaite les connaître un peu pour donner à la cérémonie un tour plus personnel. Il les encourage à préciser le sens de leur engagement, réfléchir à la façon dont ils mèneront en chrétien leur vie conjugale. Il les guide dans l'organisation de la cérémonie, les aide à choisir les textes et les chants. Pour lui, c'est une occasion de rencontrer des gens de tous milieux, plus ou moins croyants, plus ou moins intéressants, c'est vrai. Mais il est là pour tous. Il est heureux de les accueillir dans son église. Sa foi est profonde. Il essaie de mettre la charité au centre de son existence. Tous ces couples à marier, c'est important pour garder l'espérance. Dans quelques instants, il va célébrer le troisième mariage de la journée, après ceux de 10 et de 14 heures. Avec les fiancés, les premiers rendez-vous se sont bien passés. Des jeunes gens motivés, d'un bon niveau intellectuel, même s'ils n'accordent pas une place prépondérante aux choses spirituelles. Ils ont tous les deux ce qu'il appelle de bonnes bases. Une éducation religieuse soignée, un amour sincère, le rêve d'un foyer. De bons représentants de la cohorte des croyants non pratiquants. Par les temps qui courent, c'est déjà beaucoup. L'organisation des rendez-vous a été assez compliquée, parce qu'ils viennent de loin et que leur vie professionnelle leur laisse peu de liberté. Ils ont casé ça au moment des réunions familiales dans la propriété des parents de la jeune femme. Ils ont annulé le dernier rendez-vous d'une façon un peu cavalière, en le prévenant le jour même. Ça l'a beaucoup agacé sur le coup, et déçu aussi, parce qu'il les avait appréciés, même s'il trouve la jeune femme un peu hautaine. Mais c'est peut-être seulement de la réserve. Il ne veut pas la juger. C'est elle qui a appelé en disant qu'ils étaient obligés de décommander en raison d'impératifs professionnels. Il a demandé... C'est plus important que de bien préparer votre mariage ? Elle a répondu sèchement. Elle était désolée, mais elle ne pouvait pas toujours faire ce qu'elle voulait. Ils se sont quittés comme ça, sur cette note un peu aigre. Après, il s'en est voulu d'avoir réagi aussi brutalement, au lieu de se montrer compréhensif. Les gens travaillent. Ils ont des responsabilités. Ça peut arriver à tout le monde de devoir annuler un rendez-vous. De toute façon, il ne restait à régler que de menus détails d'organisation. Ils ont eu le temps d'en discuter avant le début de la cérémonie. Au fond, on pouvait très bien se passer de ce dernier rendez-vous. Mais il doit reconnaître qu'il a été déçu et peiné de les voir annulés. Ça lui fait tant de bien de voir des gens. Il n'a jamais douté de sa vocation. Il est heureux, même si c'est difficile. Le service des trois paroisses est très lourd. Dans cette région frappée par l'exode rural, la moitié des habitations sont des résidences secondaires. La vie des villages s'étiole et les paroisses meurent peu à peu. Beaucoup de vieux. De moins en moins au fil des années. Les mariages et quelques baptêmes sont pour lui pratiquement les seules occasions de voir des jeunes. Il avait rêvé d'autre chose, c'est sûr, mais jamais il n'a eu l'impression d'être inutile. Jamais. Il assure presque seul l'entretien des églises. La petite vieille qui l'aidait depuis des années est morte l'an dernier dans son sommeil, sans crier gare. Il n'a même pas pu lui administrer l'extrême onction. Depuis, il n'y a plus personne pour s'occuper des fleurs et du nettoyage. Les bénévoles ne courent pas les rues. Ils passent plusieurs heures par semaine à manier le balai et le chiffon à poussière dans les maisons de Dieu. Il est autodidacte dans l'art de composer des bouquets et il ne s'en sort pas si mal. Par souci d'économie, le diocèse lui a retiré la bonne qui faisait le ménage, la cuisine et tenait son linge. Il s'en moque. Il se débrouille très bien tout seul. La cure est immense et délabrée. Il n'occupe que 3 pièces au rez-de-chaussée qu'il met un point d'honneur à tenir impeccablement. Une chambre avec une petite salle de douche, un vaste bureau où il travaille et reçoit les visiteurs, et une grande cuisine qui sert aussi de salle à manger. Il aime cuisiner. De ce point de vue, il ne regrette pas Mélanie, qui était lamentable. Pour le reste, il ne faut pas trop lui en demander. Il a autre chose à faire que repasser du linge. Les gens ont l'habitude de le voir avec des chemises et des pantalons froissés, et ils se moquent bien de savoir ce qu'ils peuvent en penser. Au total, il a l'impression de passer une grande partie de son existence à régler des questions matérielles. C'est ça le plus dur. Courir après l'argent pour maintenir les paroisses à flot et si peu contribuer à la spiritualité des fidèles. On ne peut même pas dire qu'il y ait une vie paroissiale. On vivote. Il y a de moins en moins d'enfants au catéchisme. Il confesse 2 ou 3 vieilles dames par-ci par-là, dépanne de temps en temps un SDF qui vient solliciter un peu d'aide en échange d'un petit boulot. Il administre des extrêmes onctions à tour de bras. Les mariages, c'est vraiment ce qui lui permet de maintenir la tête hors de l'eau. Il a beau vivre dans un trou, il ne s'est jamais coupé du monde. Il se tient informé. Il suit l'actualité. Il lit beaucoup. La presse catholique et aussi la plupart des quotidiens nationaux. Le mal s'étale, partout, avec une arrogance obscène. Les massacres, les fosses communes, les petits bébés éventrés, les femmes violées, les enfants abusés, battus à mort, les types assassinés pour une cigarette refusée. On en est encore là 2000 ans après la venue du Christ. Il se demande parfois s'il est vraiment possible de faire reculer le mal. Pour ne plus douter, il prie celui qui a souffert pour racheter les péchés du monde. Il essaie de vivre dignement, d'apporter lui aussi sa pierre, petite, modeste, obscure, à l'édifice. Il se répète que les hommes sont capables de choses formidables. Mais plus il y réfléchit, plus il lui semble qu'au bout du compte, c'est le mal qui triomphe. Un vent mauvais se répand sur le monde, une brume glauque, une ombre gigantesque. Les célébrations ne lui procurent pas l'apaisement et la joie qu'elles devraient, sans doute parce que l'assistance est de plus en plus clairsemée. Certains jours, ils sont 3 à chanter. Il ne ressent un peu de paix que lorsqu'il prie seul, à Sainte-Agathe. Il y a des endroits qui touchent au cœur. La profondeur de leur silence, l'intensité de leur lumière, la douceur de leur parfum donnent à la prière une tournure particulière. On a l'impression qu'elle va plus directement vers Dieu. C'est stupide, évidemment. Dieu est partout, jusque dans les profondeurs de l'âme, et il entend les prières avant même qu'elles soient formulées. Il n'y a pas de raison qu'il se montre plus accessible à celles qu'on prononce au milieu des encens, au sein des cathédrales et des palais, ou dans l'ombre d'une église romane ornée de sculptures en bois polychrome. On aimerait même croire qu'il exauce avant tout les prières qui montent de la crasse et des taudis, des cachots où la lumière n'entre pas. On aimerait le croire. Cette église humble et belle, et si vieille, est un havre dans son existence aride. Au cœur de la gangue de pierre, il arrive à sentir l'amour du Seigneur et à oublier le voile opaque jeté sur l'univers. Depuis quelques mois, il est troublé. Certains jours, il se sent frôlé par une présence. De plus en plus souvent, il a l'impression qu'un être ténébreux, malfaisant, rôde dans les parages. Jusque-là, il n'y croyait pas. Autant sa foi en Dieu était ardente, autant son amour lui était clairement perceptible, autant l'existence de l'autre lui paraissait douteuse. Il pensait « Le mal est une invention des hommes qui rejettent Dieu, se détournent de lui ou ne parviennent pas à le trouver. » Il refusait d'imaginer un principe transcendant qui serait le mal, le démon, le diable ou tout autre nom qu'on veut bien lui donner. Bien sûr, il savait que ce n'est pas ce que dit l'Église, mais après tout, il trouvait son point de vue tout aussi valable que celui des théologiens, si savants soient-ils. Avant, il n'y croyait pas, tout simplement. Mais quelque chose a changé. Il y a cette présence maléfique qui rôde dans l'église et lui tourne autour, certains jours. Un moment, il s'est demandé s'il n'avait pas des sortes d'hallucinations. Il a fait le point, il a prié, mais ça a continué. C'est une sorte de poussière froide qui lui tombe sur les épaules, s'insinue, le déconcentre, le désespère. C'est l'impossibilité de trouver un moment de paix dans la journée pour penser à des choses heureuses et constructives. Ces derniers temps, Il n'arrive plus à célébrer correctement la messe, s'attendant presque à voir surgir au milieu des paroissiens un être au regard glacé, qui le transpercerait jusqu'à le tuer, dont la seule présence suffirait à pétrifier l'assistance, empêchant toute prière et annihilant l'espoir. Il se dit parfois « Je déraille, je suis en train de devenir fou ». Mais il sait bien que ce n'est pas ça. Il est loin d'être fou. Il est juste un peu surmené. Il doit tenir. Il prie le Seigneur de lui communiquer sa force, de lui faire sentir son amour, comme il l'a toujours fait jusqu'ici. Il prie aussi Sainte Agathe, sa petite Vierge martyre, avec son doux sourire et ses seins sur un plateau. Aujourd'hui, il se sent très fatigué. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller. Il a encore un mariage à célébrer. Il doit tenir. Le père de la mariée, un homme très distingué, est venu discuter un peu avec lui tout à l'heure. Il voulait savoir s'il avait une préférence pour le règlement de la cérémonie, chèque ou liquide. Il est tenu de déclarer précisément toutes les sommes perçues. A priori, il n'a pas de préférence, mais c'est vrai qu'avec le liquide, on évite la paperasserie. Pour couvrir les frais et contributions à l'entretien de l'église, il demande environ 80 euros. C'est l'usage pour une messe de mariage, mais bien sûr, chacun est libre de donner ce qu'il souhaite en fonction de ses moyens. Le père de la mariée a proposé 200 euros. « Pour vos œuvres !» lui a-t-il dit. Ils ont bavardé un moment. Le monsieur s'est enquis poliment de ses activités et il lui a proposé de venir boire un verre au cocktail qui sera offert après le mariage au moulin de Gagnères. Ça ne lui arrive pour ainsi dire jamais d'être convié à la fête. Avant, c'était systématique. On invitait monsieur le curé, et monsieur le curé était bien content de passer un moment en compagnie des mariés, de leurs familles et de leurs invités. Mais cela fait partie des usages qui se sont perdus, sauf dans les familles où l'on conserve un peu du savoir-vivre d'autrefois. Il a accepté l'invitation avec joie, avec gratitude même. C'est toujours vivifiant de se trouver mêlé à des existences si différentes de la sienne, de se frotter à cette vie bruyante, agitée, si pleine de diversité, si stimulante. Quelques heures passées en compagnie de ses fidèles, d'une famille pour laquelle il a célébré un mariage, un baptême ou même un enterrement, suffisent à le réconforter d'une façon extraordinaire. Curieusement, entrevoir la richesse, les joies et les fêlures de toutes ces existences à mille lieues de la sienne l'aide à reconnaître la richesse de sa propre vie et à en relativiser les difficultés. Aujourd'hui, cette invitation impromptue a mis du baume sur sa fatigue et les pensées obscures qui rôdent autour de lui. C'est avec joie qu'il accueille dans la maison du Seigneur cette assemblée élégante et colorée. Il se tient debout dans le chœur, les mains croisées sur le ventre, avec aux lèvres un sourire bienveillant. L'assistance prend place sans vraiment faire attention à lui, mais il a l'habitude. C'est le moment où chacun cherche la place où il se sentira le mieux pour passer le temps de la cérémonie, prendre de bonnes photos, surveiller les enfants, quitter rapidement l'église pour ne pas manquer la sortie des mariés. Sur un côté du chœur, un jeune homme installe un caméscope sur pied. Impossible désormais d'éviter le caméscope. Des centaines et des centaines d'heures ont été tournées dans cette église. Pour lui, c'est un mystère. Est-ce que vraiment les couples se repassent le film de leur mariage le soir à la veillée? L'atmosphère de l'église est feutrée. Les gens chuchotent, prennent garde de ne pas faire du bruit. Ils savent se tenir. C'est déjà ça. Il observe l'assistance avec intensité. Il fait de gros efforts pour surmonter sa fatigue. Il se concentre. Seigneur, donne-moi la force de prier pour tous ces frères que je ne reverrai jamais. Au premier rang, parmi les enfants d'honneur, il voit une petite mongolienne. Dans les cortèges d'honneur, d'habitude, il n'y a que des petites filles et des petits garçons bien normaux et bien enrubannés. La présence de cet enfant le réconforte, d'une certaine façon. Il n'aurait pas cru ça de la mariée, qui lui a semblé très soucieuse de faire de la cérémonie une représentation parfaite et raffinée. Elle paraissait d'ailleurs beaucoup plus préoccupée par l'organisation matérielle que par la dimension spirituelle de la célébration. C'est pour ça qu'il l'a trouvée agaçante, et pour tout dire antipathique. Il l'a jugée trop vite. La présence de cette petite mongolienne dans le cortège d'honneur témoigne d'une estimable ouverture d'esprit. Encore quelques minutes avant l'entrée des mariés. Le photographe prend des clichés des enfants d'honneur, sagement assis sur leur banc. Dans l'allée, il voit s'avancer une jeune femme. Aucun doute. C'est la sœur de la mariée. La ressemblance est flagrante. Elle se penche vers la petite mongolienne, la fait se lever en lui prenant la main et l'oblige à échanger sa place avec un garçon plus grand assis au deuxième rang. Elle est souriante, impérieuse, efficace. En quelques secondes, la tête de la petite mongolienne disparaît derrière les épaules du plus grand. Les enfants s'agitent un peu sur leur banc, Mais la jeune femme les fait taire d'un seul regard, puis d'un geste, elle signifie au photographe qu'il peut continuer. Et elle retourne, très élégante, prendre place à quelques rangs de là. Ça lui monte au cœur comme un poison. Il pense « Espèce de garce !» À ce moment, l'autre entre dans l'église, invisible et glacé, précédant de peu l'arrivée des mariés. Il faut résister, ne pas se laisser envahir par des pensées mauvaises, ne pas se laisser influencer. Qui est-il pour juger? Qui est-il pour condamner? Il va célébrer ce mariage comme il se doit. Seigneur, donne-moi la force. Dissipe l'obscurité qui m'entoure. Aide-moi à prier pour les péchés des hommes que le Christ a rachetés par son sacrifice. À présent, les mariés sont devant lui, attentifs et graves. Il sent son calme revenir. Il remercie le Seigneur de l'avoir exaucé. Il peut commencer. Il entame la gestuelle tant de fois répétée à l'identique. Il avance de 3 pas, ouvre les bras en signe d'accueil et sourit avec bonté. Il prononce les phrases qu'il connaît par cœur, mais il les dit avec sincérité, avec conviction. Il leur souhaite bienvenue dans la maison du Seigneur, et ce ne sont pas de vains mots. Il parle de l'importance du sacrement qui va être célébré, de sa joie d'accueillir Bérengère et Vincent, et ce ne sont pas de vains mots. On entonne le chant d'entrée. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. L'assistance participe, ça va l'aider à tenir le coup. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. C'est incroyable à quel point ces paroles le réconfortent. Il a l'impression de les entendre pour la première fois. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Ce chant, c'est un signe de Dieu. C'est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre pour braver la fatigue et oublier la présence de l'autre. La sœur de la mariée s'avance pour lire la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Un texte magnifique, un classique. La jeune femme porte un tailleur bleu ciel parfaitement coupé et une capeline assortie piquée de fleurs rouges. Elle pose sur le lutrin une main très fine. Il voit scintiller à son doigt un gros solitaire en diamant. Sa voix claire s'élève dans l'église. « Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » À ce moment, il entend distinctement résonner la cymbale. Son cœur se glace et bat plus sourdement. L'autre est là, tout près, dans le cœur. L'autre s'invite pour célébrer le mariage avec lui. Il prie Dieu de toutes ses forces pour sentir la chaleur de son amour. Il prie Dieu que l'autre s'en aille. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Il regarde l'assistance avec désespoir, comme pour chercher de l'aide dans un sourire, un regard, le visage d'un de ses frères humains. Mais eux ne le voient pas. Ils n'ont Dieu que pour la jeune femme élégante qui lit avec une diction parfaite la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Ou bien il regarde ailleurs. De lui, personne ne se soucie. Personne n'est là pour lui. Il a froid. Il voudrait qu'on le réchauffe. Et Dieu ne répond pas à son appel. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Il voit luire la pierre au doigt de la jeune femme et pense, « Toi, avant que tu distribues ta fortune aux affamés, l'amour prend patience. » De la patience j'en ai beaucoup. L'amour rend service. Rendre service, je ne fais que ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Servir, c'est toute ma vie. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il a l'impression soudain que le texte lui est adressé comme un reproche. Ces gens ont senti ses réticences. Ces gens ont soupçonné ses pensées les plus secrètes. Et maintenant, devant tout le monde, ils lui reprochent de manquer d'amour. Ils le jugent. Ils lui font la leçon. Il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. Tant mieux pour ceux qui parviennent à s'en persuader. Tant mieux pour ceux qui se marient avec cette foi, cette certitude. L'amour ne passera jamais. Cette phrase, il y croyait lui aussi au début. À présent qu'il a de l'expérience, qu'il a découvert les déserts arides du cœur humain, il a recueilli assez de confessions en 20 ans pour savoir de quoi il parle. Il n'y croit plus. Mais, évidemment, il ne l'avouera jamais qu'à lui-même. Il se rend compte soudain qu'il règne dans l'église un silence profond. La jeune femme est retournée à sa place et tout le monde attend, poliment, qu'il fasse son office. Sans doute ont-ils pris son moment de distraction pour un recueillement profond. Il se lève, marche vers l'assemblée et entonne le psaume. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Quelque part, derrière, tinte un rire ironique. Après le psaume, une chanteuse professionnelle dont les maris ont loué les services chante l'Ave Maria de Schubert. Jamais il n'a assisté à un pareil massacre. Tandis qu'il s'avance lentement pour la deuxième lecture, il entend encore une fois comme un grelot lugubre agité contre son oreille. Les deux mains posées sur le lutrin, il ferme un instant les yeux. Et là, il se rend compte que c'est en lui. Le rire qui résonne dans sa tête est le sien.